Vous écoutez Lille Info sur Radio Campus comme chaque mercredi entre 17h30 et 18h. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée au Théâtre du Nord, partenaire de l'Université Lille 1. Nous avons le plaisir d'accueillir Yannick Mancel. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Donc on se retrouve pour la présentation de ce partenariat entre l'Université Lille 1 et le Théâtre du Nord. Vous êtes actuellement conseiller artistique et littéraire au Théâtre du Nord.
Oui, j'exerce cette fonction au Théâtre du Nord depuis 1998, après avoir eu la chance de l'exercer dans d'autres lieux prestigieux, au Théâtre National de Strasbourg et notamment au Théâtre National de Belgique à Bruxelles.
Alors, le Théâtre du Nord, en quoi est-il partenaire de l'Université Lille 1 ? Quels sont les projets que vous avez en commun ?
Ce ne sont pas des projets en tant que tels, ce sont des partenariats réguliers, assidus, annuels, comme avec l'université de Lille 3 d'ailleurs, et qui sont qui relèvent de l'attention particulière que le Théâtre du Nord accorde au milieu étudiant, à la vie universitaire en général. Et il y a cette invitation très matérielle, très concrète, adressée aux étudiants des universités, mais aussi des grandes écoles, à venir s'inscrire au Théâtre du Nord avec une carte passe, ce qu'on appelle une carte passe, c'est-à-dire 15 euros de cotisation annuelle, et ensuite la possibilité de voir autant de spectacles qu'on veut pour le prix de 3 euros, ce qui est tout à fait exceptionnel, et je crois qui est le seul cas de partenariat économique en France entre un gros centre dramatique national et une université.
Alors, les étudiants sont sollicités par plusieurs, on va dire, lieux culturels dans la région. Comment on peut expliquer la spécificité du Théâtre du Nord, l'unicité de sa programmation, on va dire, par rapport à d'autres ?
Alors, le Théâtre du Nord a une histoire qui remonte aux années 50-60. C'est un centre dramatique national. Et ces lieux-là avaient, après la Libération, et encore jusque dans les débuts de la Ve République, sous l'impulsion d'André Malraux notamment, la vocation de créer en décentralisation des spectacles de théâtre dramatique, c'est-à-dire des spectacles fondés essentiellement sur des œuvres poétiques, littéraires, textuelles, et une création scénique qui mettait les acteurs au centre de la création théâtrale. Je veux dire qu'on a gardé ce cap, parce que si on regarde bien notre programmation, en fait, il y a toujours une dimension littéraire, textuelle, une forte exigence poétique dans le choix des œuvres, et une part prépondérante accordée à l'acteur vivant sur le plateau, en direct, dans l'ensemble des composantes qui aujourd'hui participent à la réalisation d'un spectacle de théâtre. Et c'est vrai qu'elles sont très nombreuses, notamment au fur et à mesure que la technologie évolue.
Donc dans la programmation, on retrouve un répertoire, on va dire, qu'il soit français, anglais ou autre.
Oui.
Et puis des œuvres plus récentes, d'auteurs actuels.
Oui, d'auteurs vivants, oui.
Comment se fait ce mix un peu des...
Alors, une programmation, c'est très étrange parce que bon, on l'a fait selon un certain nombre de critères quand même. La vocation d'un centre dramatique, c'est de favoriser la création, la production de spectacles de façon totalement autonome ou en coproduction avec quelques partenaires. Et c'est ça, c'est ce qui fait que non seulement les centres dramatiques sont dirigés par des metteurs en scène en exercice, mais que les centres dramatiques, par exemple, sont dotés, pour la plupart d'entre eux, d'ateliers de construction de décors et d'ateliers de confection de costumes. C'est pour manifester cette autonomie-là de création et de production. C'est notre vocation première. Mais nous devons aussi, au sein de la programmation, inviter, accueillir un certain nombre de spectacles qui sont des spectacles de référence sur le plan national, voire international. Et puis, nous avons aussi une troisième et une quatrième mission qui sont d'être particulièrement attentifs à la relève, au théâtre que les jeunes équipes pratiquent aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français, et aussi, évidemment, un regard de proximité particulièrement attentif sur la création régionale. Et je crois que ces quatre missions-là, création autonome, accueil de spectacles de référence nationale ou internationale, attention particulière à la création qui constituera la relève de demain, et enfin attention particulière accordée à la création qui se pratique en région à travers les compagnies, jeunes ou moins jeunes. Voilà ce que sont les missions essentielles du Théâtre du Nord et de tout centre dramatique.
Alors, Yannick Mansel, quelle est la différence entre un centre dramatique national et une scène, par exemple, comme La Rose des Vents, qui est d'une nature différente?
Ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas la même histoire, en ce sens que l'histoire des centres dramatiques nationaux remonte, comme je le disais tout à l'heure, à la Libération et aux premières années de la Ve République. Tandis que les scènes nationales sont issues d'un deuxième mouvement de décentralisation dans lesquelles on retrouve indifféremment les maisons de la culture, les centres d'action culturelle, les centres de développement culturel qui se sont multipliés sur l'ensemble du territoire français dans les années 70 et notamment dans les villes plus modestes de 50 ou 100 000 habitants. Et au départ, les scènes nationales avaient une vocation de programmation. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus floues puisque, comme je l'ai dit, la part de programmation des centres dramatiques s'est accrue. Et de même que les scènes nationales, ces centres culturels que sont devenus les scènes nationales, se sont mises à faire un peu de production aussi, à investir de la production, notamment auprès des compagnies, à leur donner un outil de création. Ce qui fait que les frontières sont un petit peu plus floues, mais on retrouve encore, et c'est ce qui fait, je crois, le charme de la répartition des missions entre La Rose des Vents et le Théâtre du Nord, on trouve cette défense et illustration que j'évoquais tout à l'heure d'un théâtre de texte et d'un théâtre d'acteurs artisanal, traditionnel, dans les centres dramatiques, alors que, on le voit bien, les scènes nationales sont beaucoup plus curieuses, ouvertes de l'expérimentation des nouvelles pratiques scéniques à travers les nouvelles technologies. Pendant un certain temps, par exemple, les mélanges du théâtre et de la danse contemporaine se sont passés surtout dans les scènes nationales. L'irruption des écrans vidéo sur une scène de spectacle vivant, ça s'est passé essentiellement dans les scènes nationales. Donc on retrouve aussi de petites différences sur le plan esthétique. Et c'est ce qui fait le bonheur du public, c'est de pouvoir choisir justement, et peut-être souvent même de pratiquer la complémentarité des esthétiques d'un théâtre à l'autre.
Alors cette année, je pense que c'est la première fois que vous vous retrouvez dans le cadre du Next Festival.
Voilà, non seulement du Next Festival en automne, avec cette invitation commune d'un grand maître du théâtre argentin qui s'appelle Daniel Véronèse, mais aussi on se retrouvera au printemps pour aider la jeune création dans le cadre d'un festival que nous avons organisé en commun et qui mettra à disposition de 6 ou 7 jeunes équipes l'ensemble de nos salles du Théâtre du Nord et de La Rose des Vents. Et ça, je crois que ce sont deux beaux partenariats qui effectivement renouvelle un petit peu le paysage théâtral de la métropole lilloise.
Alors c'est vrai que le Théâtre du Nord abrite une école d'art dramatique qui s'appelle l'EPSAD. Mmh. Et là aussi, beaucoup de jeunes qui bougent, qui ont envie de développer des projets et de présenter aussi ce qu'ils font.
Bien sûr. Alors on en retrouvera d'ailleurs quelques-uns dans le festival Prémices au printemps, parce que Didier Thibault et La Rose des Vents sont eux aussi très attentifs au devenir et à l'insertion professionnelle de ces jeunes artistes issus de l'école professionnelle supérieure d'art dramatique du Théâtre du Nord. Mais c'est vrai que les deux premières promotions qui sont sorties respectivement il y a 6 ans et il y a 3 ans ont produit des collectifs de création, des petites troupes, des compagnies qui, pour certaines d'entre elles, se sont implantées dans la région, se sont implantées dans la métropole lilloise et ont considérablement renouvelé, encore une fois, le paysage théâtral. Je crois qu'il y en avait besoin parce que ça faisait une vingtaine d'années qu'il n'y avait plus d'enseignement professionnel dans cette région. Et quand les metteurs en scène de cette région avaient besoin, dans la tranche 25-35 ans, d'un jeune acteur, on était obligé, si on voulait quelqu'un de techniquement formé, d'une qualité professionnelle, on était obligé d'aller le chercher dans d'autres régions de France.
Donc ces élèves de l'EPSAD, est-ce qu'ils ont été auparavant dans des universités, notamment dans notre région ?
Ah oui, bien sûr. De toute façon, beaucoup d'entre eux ont fait parfois des études intellectuelles à côté de leur formation initiale en art dramatique. Certains d'entre eux ont fait une hippocagne, une cagne, une autre forme de classe prépa. Certains d'entre eux arrivent avec une licence de lettres ou d'art du spectacle en poche. Donc oui, et certains ont fréquenté parfois l'université de Lille 3, par exemple.
Alors justement, avec cette université, vous avez des liens un peu privilégiés, puisque chaque année, il y a un festival qui récompense d'ailleurs les meilleures compagnies, enfin, en fonction des jugements.
Les meilleures compagnies universitaires, oui. Mm-hmm. Oui.
Et à partir de là, vous les programmez ?
On les programme pour une représentation. En l'occurrence, là, ce sera un samedi après-midi, le 21 janvier. Là, on n'avait pas pu le faire en début de rentrée de saison, comme on le fait d'habitude, parce que la salle, vous le savez, était en travaux. La grande salle et la petite salle de la Grand Place à Lille ont été entièrement refaites avec de nouveaux revêtements et de nouveaux fauteuils. Il était temps, hein, parce que c'était des salles qui commençaient à être un peu fatiguées. Et donc, on a été obligé de repousser cette présentation du spectacle lauréat du Festival interuniversitaire au 21 janvier. Et nous les attendons avec impatience.
Alors là, on a parlé de cette salle refaite à neuf, donc qui est à Lille, Grand Place. Il y a également votre deuxième lieu, qui est à Tourcoing, à l'Idéal, et qui programme aussi des choses particulièrement intéressantes.
Alors, non seulement nous programmons des choses intéressantes à Tourcoing, mais depuis cette année, hein, comme quoi on est toujours en mutation au Théâtre du Nord, nous avons également à nos côtés deux compagnies que nous avons appelées compagnies compagnons ou compagnonnes, qui sont des compagnies de la région. L'une est animée par Laurent Attal, l'autre est animée sur le plan d'un théâtre musical par Bruno Soulier et Eva Valéjo. Et ces deux compagnies disposent de l'idéal chaque fois que celui-ci n'est pas en répétition ou en programmation. Pour y faire quoi ? Eh bien, pour y faire de la recherche pure, c'est-à-dire de l'expérimentation de textes, de jeux, de formes de dramaturgie qui n'ont aucune espèce d'objectif de rentabilité au niveau de la production. hein, qui se termine simplement au bout d'une session de travail expérimental, de recherche, par la présentation d'une étape de ce travail à notre public d'abonnés, mais surtout avec un effort particulier depuis cette année, qui réjouit particulièrement d'ailleurs les autorités municipales tourquenoises, un effort particulier envers les populations du quartier du Brimpin. Qui souvent jusque-là, pour des tas de raisons historiques, sociologiques, culturelles, etc., n'osaient pas franchir le seuil de cette belle salle de l'idéal. Et là, avec ces étapes de travail et l'idée que ce théâtre est en perpétuelle recherche, hein, qu'il est devenu une fabrique de théâtre, on l'a d'ailleurs rebaptisé l'idéal fabrique, nous avons un autre moyen d'essayer d'engager un dialogue avec ces populations qu'on appelait autrefois, d'une expression qui ne me plaît pas beaucoup, le non-public, mais enfin des gens, c'est vrai, qui ont une certaine appréhension à franchir la porte d'un théâtre, alors que elles en ont un au centre de leur quartier.
Alors effectivement, c'est tout un travail de médiation. Vous avez des personnes qui, justement,
bien
travaillent
sûr,
sur cette médiation.
Bien sûr, avec d'ailleurs des missions particulières. Il y en a qui travaillent un peu plus sur l'enseignement secondaire, par exemple, et tentent de mettre l'accent, effectivement, sur les quartiers difficiles, ce qui réjouit d'ailleurs les professeurs qui enseignent dans ces quartiers difficiles. Il y a des missions plus spécifiquement dévolues, comme on le disait tout à l'heure, à l'université et au secteur supérieur. Mais il y a aussi, tout un travail fait à l'adresse du milieu associatif. Il arrive même qu'on prépare de petits spectacles de 50 minutes, très légers, dont le matériel peut tenir à l'arrière d'une camionnette, et qu'on va présenter dans des foyers de réinsertion, des foyers qui ont toutes sortes de vocations pour aider les gens en difficulté. Et nous présentons ces petits spectacles que nous appelons des avant-scènes. Et la règle du jeu, c'est que le dialogue après le spectacle de 50 minutes doit durer lui aussi au moins 50 minutes. On est d'ailleurs généralement obligé de l'interrompre parce que c'est incroyable, une fois que la boîte de Pandore est ouverte, le nombre de questions que les gens qui ne vont pas au théâtre ont à poser à des artistes de théâtre. Et c'est une façon de les sensibiliser à l'existence de nos théâtres et de les inviter par la suite à venir voir un spectacle dans nos murs.
Yannick Mansel, souvent vous utilisez les moments forts, les spectacles, qu'ils soient invités ou en création, pour faire des temps de rencontre avec ces publics-là. Là, vous venez d'en parler, mais en général, chaque spectacle, qui sont programmés dans une certaine durée, est aussi accompagné de rencontres. Mmh. Est-ce qu'on peut faire un peu le bilan de ces rencontres et de la participation, notamment, du public étudiant dans ces rencontres? Qu'est-ce qu'il y vient faire? Qu'est-ce qu'il y cherche? Et quelles sont ses réponses? Comment vous ressentez un peu cette participation?
Alors, c'est effectivement une des volontés que nous avons exprimées dès le début de l'aventure du Théâtre du Nord avec Stuartside. C'était d'accorder une partie de notre énergie à l'accompagnement du spectateur, à sa formation, c'est-à-dire à lui donner des repères, des indications, des éléments de connaissance qui lui permettent de jouir davantage, hein, de l'instant privilégié d'une représentation théâtrale. Et nous avons décliné toutes sortes d'activités. Il y a le cours public d'analyse de la représentation théâtrale, qui est une activité chorale où chacun vient apporter son élément d'analyse à partir de ce qu'il a vu. Chacun vient décrire avec des mots simples ses sensations et ses émotions. Il y a la rencontre après spectacle où on pose des questions aux artistes, on dialogue avec eux. Il y a des apéritifs rencontres qui sont l'occasion de rencontrer un artiste d'expérience dans son parcours de vie, avec les différentes étapes de cette vie d'artiste. Il y a les tables rondes. Alors là, c'est très important pour la relation aux universités, les tables rondes du samedi après-midi où se confrontent autour d'une création les artistes qui ont participé à cette création et des universitaires spécialistes de l'auteur, de l'œuvre, du courant esthétique auquel on peut rattacher cette œuvre. Oui, et au bout du compte, c'est vrai, ça forge un public de qualité, un public averti, qui n'est pas arrogant, qui, au contraire, se sert de ses connaissances acquises au sein de notre école du spectateur pour les transmettre à des amis, à des voisins, à des élèves, c'est-à-dire la faire partager. Ça se développe ensuite par cercle concentrique, un peu comme une onde se propage, hein, puisqu'on est dans une radio. C'est une image qu'on peut employer. Et c'est très important. Et les troupes que nous accueillons, par exemple, et qui font le tour de la France avec un spectacle, nous remercient souvent de la chaleur et de la qualité d'écoute de notre public, de la qualité des questions qu'ils posent aussi dans les rencontres après spectacle. Mais c'est un long travail, hein. Il nous a fallu une douzaine d'années pour en arriver là. Ce sont des travaux de fourmis qui ne peuvent se développer qu'en s'inscrivant dans la durée. La persévérance, parce que ça ne s'obtient que par l'assiduité. Et on est assez fiers de ce qu'on a effectivement développé en matière d'école du spectateur autour de la programmation du Théâtre du Nord.
Alors Yannick Pancel, on va aborder très rapidement hein, les prochains spectacles proposés par le Théâtre du Nord.
Bien, très prochainement, nous aurons le spectacle argentin que j'évoquais tout à l'heure dans le cadre du festival Next, auquel cette année nous sommes associés via La Rose des Vents. Mon espagnol est épouvantable, hein, mais ça s'appelle Los Hijos se han dormido. Et c'est une variation très argentine, très sud-américaine, sur le thème d'une pièce russe qui est La Mouette de Tchekhov, mais qui, à sa manière, Daniel Véronèse a souhaité réécrire et adapter à la sensibilité de ces acteurs hispaniques, sud-américains, qui ont une fougue, une pêche extraordinaire. Et nous sommes très fiers au Théâtre du Nord de pouvoir régulièrement, tous les ans, faire découvrir de nouvelles sensibilités esthétiques, d'esthétique scénique, mais aussi de jeux d'acteurs, parce qu'on ne joue pas de la même façon dans tous les pays. Et ce sera l'occasion de découvrir la spécificité du jeu sud-américain avec ce spectacle argentin. Voilà. Ensuite, nous aurons Don Juan.
Du 22 au 26 novembre, donc dans la grande salle de Lille, dans le cadre du Next.
C'est ça. Hein. Et ensuite, nous accueillerons le Don Juan, alors un spectacle de référence, là, puisque c'est une production du Théâtre National de Strasbourg. C'est une mise en scène de Julie Brochen, qui en est la directrice de son école aussi. Il y a beaucoup de points communs entre l'esprit du TNS et l'esprit du Théâtre du Nord. Julie Brochen a été l'élève et actrice dans des spectacles de Stuart Side. Donc, il y a beaucoup de complicité entre eux. Le Théâtre du Nord est très présent dans les programmations du Théâtre National de Strasbourg et réciproquement, là, on était très heureux d'accueillir un spectacle de Julie Brochen qui inclut dans sa distribution, et c'est une particularité qui nous émeut beaucoup, pour jouer le rôle du père de Don Juan Don Louis, un acteur de la première promotion de l'école du Centre dramatique de l'Est dans les années 50, quelques-uns des tout jeunes acteurs, élèves acteurs actuellement en troisième année à l'école du TNS, parmi lesquels l'acteur qui joue le rôle de Don Juan.
Voilà, donc du 3 au 14 décembre dans la grande salle, toujours à Lille. Merci beaucoup donc d'être venu nous présenter le Théâtre du Nord, Yannick Mancel.
Merci René, c'est toujours un plaisir.